Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Le nouveau président américain propose une suspension de 2 ans de la loi Dodd-Frank adoptée par l'administration américaine sous la présidence Obama relative au contrôle d'approvisionnement des entreprises américaines en minerais issus des zones de conflit. Certains observateurs estiment que cette suspension mettra en péril la stabilité et la sécurité de la RDC en encourageant une escalade des activités des groupes armés et la vente des minerais de sang. Une autre opinion par contre salue la décision et plaide pour renforcer l'autorité de l'État sur tous les territoires congolais ainsi que le mécanisme de traçabilité des minerais en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? Nico Kalambay est à la réalisation de ce programme mis en onde par Alain Goy sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6380 ou bien au 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Cette émission en parole aux auditeurs est une rediffusion.
Près de 3000 personnes qui ont commenté ces sujets que nous proposons pour les débats de ces jours. Merci à vous tous qui avez au fait réagi par rapport à cette thématique et aussi des propositions que vous avez faites en analysant et en réfléchissant sur cette question. Voilà, nous ouvrons les débats avec vous, notre invité, Monsieur Maurice Miema. Vous êtes avec nous. Bonjour, Monsieur Maurice.
Bonjour. Bonjour, J.R.
Alors, vous êtes chef de division certification au CSC, Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Nous parlons donc avec vous de processus et nous rappelons d'ailleurs que vous êtes le point focal pour la RDC dans le processus de Kimberley. C'est vrai ça?
Oui, c'est cela.
Voilà. Alors, maintenant, d'entrée de jeu, si nous devons faire une petite évaluation de ce processus de Kimberley, où en est-on?
Merci J.R. Je voudrais d'abord commencer par dire que la RDC est membre du système de certification du processus de Kimberley depuis sa conception, ça veut dire depuis 2003. Et aujourd'hui, le processus compte 81 pays, dont la RDC bien entendu. Et la RDC a déjà marqué 2 points dans sa participation au processus de Kimberley, en ce que déjà en 2011, la RDC a assumé la présidence du processus de Kimberley et a réglé pas mal de choses au sein du processus de Kimberley. Ce qui est vrai, c'est que le processus de Kimberley, c'est une structure tripartite. Ça veut dire elle est composée de 3 piliers, à savoir les gouvernements et l'industrie du diamant et la coalition de la société civile. Évidemment, en plus de ces 3, il y a aussi des membres qui interviennent comme observateurs indépendants. C'est notamment le cas de l'ADPA, ça veut dire l'Association de pays producteurs africains de diamants, et il y a aussi la DDI, ça veut dire Diamond Development Initiative. Ce sont des organes qui interviennent au processus de Kimberley comme observateurs indépendants.
Alors, quel était l'objectif de ce processus depuis 2002, vous l'avez dit?
Oui, au fait, tout a commencé depuis 2002 et le lancement a commencé en 2003. L'objectif, c'était quoi? Parce qu'il avait été constaté au travers l'Afrique, parce qu'au fait, c'est l'Afrique qui est à la base de cette initiative. Il avait été constaté que beaucoup de pays africains étaient ravagés par des guerres. Et ces guerres étaient alimentées par les minerais, notamment le diamant. Et il y a eu le phénomène de ce qu'on a appelé diamant de guerre, notamment au Libéria, en Sierra Leone, et même en RDC et en Angola et tout ça. Mm-hmm. Ce sont c'est ce phénomène-là qui a fait que finalement les États africains se sont convenus de réfléchir comment mettre fin à ce phénomène des diamants de guerre, parce que on avait réalisé que les diamants étaient en train de vouloir déstabiliser les régimes légitimement mis en place.
Alors il fallait penser à un mécanisme de traçabilité.
Voilà, il fallait penser à un mécanisme de certification.
De certification d'abord.
Oui, oui. Alors c'est comme ça que réunis, on a pu mettre en place un système de certification. La matière était apportée à l'attention des Nations Unies. Les Nations Unies ont voté une résolution. Et après, c'était à Interlaken, en Suisse, que la grande assemblée a eu lieu pour que l'on puisse lancer, le début, ça veut dire janvier 2003, le système de certification qui est appelé aujourd'hui système de certification de procédure de Kimberley pour lutter contre ce qu'on appelle les diamants de conflit. Ça veut dire les diamants qui étaient utilisés pour déstabiliser les régimes légitimement en place.
Alors au début c'était les diamants, mais en 2010, c'est-à-dire 7 ans plus tard, une loi historique a été adoptée par le Congrès américain. Il s'agit de la loi Dodd-Frank pour étendre non seulement les diamants à d'autres minerais, notamment l'étain. Il y a également l'or et tant d'autres, donc c'est-à-dire pour permettre à ce qu'on puisse finalement tracer voilà le tungstène, le tintal, l'étain et l'or, donc qui s'ajoutait. Alors cette loi aujourd'hui est menacée de suspension par l'administration Trump. Est-ce que vous pensez que cela risquerait de déstabiliser ou de perturber un peu la sécurité en RDC?
Oui, JR, je crois qu'il est important que nous puissions revenir un peu sur le contexte lui-même, parce que il faut le savoir. C'est vrai qu'on a commencé avec les poursuites de Kimberley, et les poursuites de Kimberley a donné lieu à d'autres mécanismes de certification qui s'étendent notamment à toutes ces normes, la loi de Dodd-Frank qui fait partie aussi d'une des grandes lois qui réglemente le secteur des stanifères et d'or en RDC notamment. Au fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il est vrai que le président Donald Trump a signé le 31 janvier 2017 le décret qui amorçait le processus de modification de la loi Dodd-Frank du 21 juillet 2010. Et par rapport à cela, le 8 février déjà, la presse en parlait suffisamment et plus particulièrement, il s'agit de ce qui nous concerne, la section 1502. Et c'est simplement à partir de là qu'il a été demandé les différentes parties prenantes dans cette question, dont notamment la RDC, parce que vous savez bien que la Dodd-Frank est foncièrement, si pas complètement, orientée vers les minéraux de la RDC. Et la RDC devait absolument aussi donner un point de vue, parce qu'il a été demandé à tous les parties prenantes de donner le point de vue sur cette décision que voulait prendre l'administration américaine.
Et quelle est la position de la RDC?
La position de la RDC, la première chose
ça
que nous devions savoir...
Pour l'administration américaine?
S'il vous plaît, je crois qu'il faut que nous sachions nous mettre là où nous devons nous mettre. L'administration américaine, les États-Unis, c'est un pays souverain. Et quand ce pays souverain vote sa loi, il lui appartient d'en disposer comme il veut. Donc la RDC n'a pas de contraintes à faire à l'administration américaine par rapport à ce qu'elle pense faire par rapport à ses propres lois. Mais tout au moins, parce que cette loi s'applique et que l'administration américaine a demandé un point de vue à la RDC, alors la RDC est aussi... à mesure de dire ce qu'elle pense.
Alors qu'est-ce que la RDC pense?
Au fait, comme je l'ai dit là, la RDC n'est ni pour ni contre, parce que c'est une matière souveraine, d'un État souverain. Mais tout au moins la RDC dit ceci, que en ce qui concerne la traçabilité des minéraux, il faudrait qu'on sache que la RDC a une responsabilité en tant qu'État souverain. La RDC a une responsabilité. Parce qu'ici, nous sommes dans le secteur de commerce. Et dans le secteur de commerce, c'est vrai qu'il y a la loi de l'offre et la demande qui joue. Il y a l'État américain avec les industriels américains qui voudraient s'approvisionner auprès de la RDC. Et la RDC a tout intérêt à mettre des mécanismes qui crédibilisent ces minéraux pour que ces minéraux soient vendus à l'extérieur. Voilà pourquoi nous sommes tenus à être en collaboration
avec les consommateurs.
Ceux qui reçoivent nos minerais. Alors, dans ce cas-là, c'est vrai que si aujourd'hui nous disons qu'il y a des avantages, parce que au fait cette loi-là, ce n'était pas seulement la traçabilité des minerais, il y avait aussi la lutte contre tous ces groupes armés, le terrorisme. En fait, c'était la lutte contre les minerais, les blanchiments de capitaux, la lutte contre les terroristes, les financements de terrorisme et tout cela. Et ça, c'est à notre avantage, c'est vrai. Mais je dois dire que il n'y a pas que la loi de Dodd-Frank qui réglemente la traçabilité des minerais, parce que maintenant, aujourd'hui, si vous n'êtes pas informé, il y a l'Union européenne qui vient de sortir ses standards sur comment est-ce que les minerais doivent être, la chaîne d'approvisionnement doit être réglementée. Il y a aussi la Chine, donc, qui a sorti aussi. Donc, ça veut dire que maintenant, il n'y a pas que la loi de Dodd-Frank, mais il y a plusieurs mécanismes selon tous ceux qui reçoivent les minerais, qui donnent aussi leurs conditions.
Et donc, si je comprends bien, nous ne devons pas craindre ou peut-être redouter des effets néfastes pour notre économie.
Vous savez qu'au-delà
pour notre sécurité aussi.
Oui, au-delà de cette loi de Dodd-Frank, c'est vrai que la loi de Dodd-Frank a donné, on dirait, un go, mais il y a bien d'autres mécanismes qui ont été mis en place. Et je voudrais vous dire que les minerais qui sont concernés, que nous appelons les minerais désignés, ça veut dire la wolframite, la cassiterite et la tantale, plus l'or, sont réglementés par le mécanisme régional de certification de la CIRGEL. En fait, le mécanisme de la CIRGEL lui-même, qui est pratiquement basé sur le devoir de diligence raisonnable de l'OCDE. En fait, tous ces mécanismes aujourd'hui trouvent, on dirait, un point d'enclenchement, parce que, au fait, tous ces mécanismes reposent sur le respect, l'approvisionnement responsable, le respect des normes. Ça veut dire pour éviter que les minéraux de conflit ne puissent avoir droit de cité.
Voilà. Alors, Monsieur Maurice, nous vous gardons dans ces studios le temps d'ouvrir les standards et accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat, avec qui on va échanger de manière un peu citoyenne sur cette question de la loi Dodd-Frank, qui, au fait, est menacée de suspension par l'administration, la nouvelle administration américaine. 0 81 890 63 15 49 69 pour votre intervention en direct.
Monisco metela masam na kuzaba kifulme bakama bansadi zole ya Nations Unies ina kuvilaka yeba kongole iya ya kukwenda katibao. Makisa ya Monisco meba kama na kizunga ina samu na kumona basadi ina kuvilaka milumbu meluta mpe samu na kupesa baulu kengulu. Kana beno kile na bansangu na jambo yai beno luta na babilo ya Monisco samu na kuzabisa yao. Monisco kile na manaka ya kutani na nkangu kubaka vee honga na bimvuka ya kile na kutambula na zulu yao kele na kusosa bantu ina. Beno sadisa beto na kisalu ya kusosa bantu ya ikuvilaka. Bao keleve na kati ya mavuanga ya kile na kuluta na RDC tompe na kizunga. Na sozi nime telama samu na kuzaba kifulume bakama bansadi ya ikuvilaka yeba kongole yela kuenda kati bao.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, cher Lungembo, bonjour à tous les amis auditeurs et bonjour à Monsieur Maurice.
Alors, Maître Adrien, vous venez de suivre notre invité, Maurice Miema, qui a beaucoup plus insisté sur la responsabilité, d'ailleurs, de la RDC en tant qu'État, et également, pas de doute à avoir, on ne peut pas redouter quoi que ce soit, dès lors que il y a plusieurs mécanismes de la traçabilité des minerais à RDC. Alors, est-ce que vous partagez cet avis, par rapport aux propos de notre invité?
Merci beaucoup, cher, de la parole que vous m'accordez. Je ne partage pas malheureusement son avis, parce que c'est ça même le péché de notre pays. Monsieur Maurice vous dit que la RDC n'est ni pour n'est ni contre, mais il faut redouter donc la situation sécuritaire économique, donc la situation économique de notre pays et aussi la situation sécuritaire de la population, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est comme lui-même commençait déjà à vous dire, non seulement l'administration Trump a pris cette décision, Lorsque vous allez au niveau de l'Europe, l'Union européenne a aussi pris une réglementation. Au niveau de l'Afrique, la CEDEAO a pris aussi une réglementation. Donc, ce qui fait que si la RDC reste dans la position telle que donnée par M. Maurice, celle tendant à ne pas être ni pour ni contre, donc la RDC risque d'être isolée avec sa stratégie-là. Ça sera maintenant une façon d'alimenter maintenant les différents groupes rebelles, parce que là, la vente maintenant de tous ces minéraux-là se feront maintenant d'une manière clandestine. Là, ça ne sera pas bon pour notre économie et pour notre sécurité. Moi, je pense, comme il y a déjà l'organisation de part et d'autre, c'est comme lui-même l'a dit, chaque pays est souverain. Il appartient aussi à la République démocratique du Congo, en ce moment précis, de prendre aussi une mesure, soit assez ralliant par rapport à ce qui est pris par l'administration américaine, soit par l'administration européenne, soit par même au niveau africain, donc au niveau africain de la CEDEAO, pour marcher ensemble. Parce que s'ils ne font pas ça, c'est comme je le disais, la RDC ne saura pas où mettre où mettre la tête. Donc là, c'est de un. De deux, je pense que toutes ces mesures prises par ces différents pays-là, c'est une aussi façon de stimuler la République démocratique du Congo à voir comment est-ce qu'il faut se positionner. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous prenons l'historique par lui tracé depuis 2003, si cette loi-là a été instituée, c'était pour éviter tout ce qui pouvait arriver à des différents pays qui étaient menacés par les groupes rebelles. Pourquoi ? Parce que ils prenaient ces
Maître Adrien, parce que vous l'avez évoqué, le commerce lucratif des minéraux, le commerce illicite de minéraux, la loi américaine Dodd-Frank a évoqué suffisamment cet aspect des choses. Voilà pourquoi certains observateurs redoutent que les effets que vous avez évoqués puissent normalement avoir lieu. Donc ça se justifie. Mais là, si je reviens sur ce que notre invité disait tout à l'heure, il n'y a pas que cette loi qui réglemente la traçabilité, il y en a tant d'autres, en évoquant bien entendu les mécanismes de CIRGEL, qui, au fait, on pourrait peut-être renforcer, comme le souhaitent les uns et les autres. Est-ce que vous partagez cet avis, qu'on puisse renforcer le mécanisme, par exemple, de CIRGEL?
Non, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que le mécanisme de CIRGEL, donc CIRGEL, n'aura pas d'impact vis-à-vis de ce qui, parce qu'il doit d'abord lire ce qui est fait par la CEDEAO et ce qui est fait par l'administration américaine et l'Union européenne. Donc moi, je pense que le mécanisme de la CIRGEL n'aura pas vraiment d'impact ici. La République démocratique du Congo est appelée à se positionner, soit en se ralliant sur ce que la CEDEAO a fait, soit sur ce que l'Union européenne a fait. Donc,
merci beaucoup. Voilà, merci.
À ce niveau.
Merci beaucoup, Maître Adrien. C'est vrai, vous en appelez et donc à la responsabilité de l'État de pouvoir lever une option, ne pas être au milieu du village, soit. Ils appuient la décision de l'administration américaine en lisant bien entendu les recommandations de la CEDEAO et aussi de l'Union européenne pour se positionner. Merci beaucoup, Maître Adrien. Maître Likonza, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat? Responsabilité de l'État souverain, la RDC comme un État souverain, il n'y a pas à redouter, parce que cette loi n'est pas la seule qui réglemente la traçabilité selon notre invité. Il y en a tant d'autres, nous avons cité le mécanisme de la CIRGEL. Est-ce que vous partagez cet avis et surtout ce que venait de dire votre prédécesseur, Maître Adrien de Kananga?
Bien, merci. Mon prédécesseur, Maître Adrien, a déjà fustigé certains comportement de l'invité quand il dit ni pour ni contre, et vous posez la question quelle est la position de la RDC. Il n'a pas répondu à cette question, il a pris beaucoup de temps pour parler d'autre chose que de la question principale, la position de la RDC. Mais moi je pense que cette mesure du président américain est de nature à prouver l'échec du processus de Kimberley, parce que vouloir empêcher ou décourager la vente du diamant du sang, c'est aussi une stratégie de dissuader les mouvements insurrectionnels en Afrique. Mais depuis que ce processus a été mis en place, jusqu'aujourd'hui, la RDC connaît ou bien a connu combien de mouvements insurrectionnels, les conflits armés en RDC pour ne pas citer d'autres pays africains. Mais je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on doit bien réfléchir. Il ne faut pas seulement rejeter les choses comme ça, dire que non, État souverain. Oui, la RDC est un État souverain, les États-Unis aussi. Mais cette mesure, vu l'ampleur, la puissance économique des États-Unis, nous pouvons quand même réfléchir. Après, en premier lieu, moi je vois dans cette mesure le fait que pour la RDC, hein, de mettre sur pied une stratégie pour éradiquer la situation des conflits armés que nous connaissons dans ces pays il y a plusieurs années. Et de deux, la vente de ces diamants pour les entreprises américaines, c'est une manière de vouloir rentabiliser l'économie américaine. Alors, pour nous, quand le président américain a pris cette position, nous ne pouvons pas regretter ou bien rester à l'écart. On doit chercher à négocier. Si on veut bien.
Hein, oui, parce que vous parlez de négociations, je vous signale qu'il y a une équipe, une délégation de la RDC qui se trouve présentement aux États-Unis. Je crois, comme l'a dit notre invité, c'est pour donner notre position, réfléchir ensemble et aussi apporter quelques éclairages quant à ce, afin de tirer une conclusion par rapport à cette affaire. Donc je crois que la délégation rentre déjà demain, et après demain nous allons faire également le suivi pour au fait connaître à fond la position de la RDC, et on reviendra à vous, Maître Likonza, et à tous les autres pour soumettre également au débat cette position de la RDC. Merci beaucoup. Étienne, vous êtes à Guémena, bonjour et bienvenue.
Bonjour à Dokapi, bonjour à tous les auditeurs et à l'invité. Je profite de votre micro aussi pour féliciter M. Donald Trump, le président américain.
Quelle est votre contribution, Étienne?
Oui, monsieur le journaliste, je suis apaisé par votre dernière phrase disant que une délégation de la RDC se trouverait déjà aux États-Unis pour négocier, soit se donner l'avis de la RDC. Mais sinon, en suivant l'autre invité, quand il a dit que donc la RDC n'était ni pour ni contre, cela m'a inquiété. Parce que quand vous voyez bien, depuis 2010, quand cette loi a été mise sous pied, et quelques années après, il y a encore de loi, et le nouveau décret de mois de mars ici, vous voyez que nous sommes dans le domaine du commerce. Et chaque pays doit avoir sa responsabilité et sa crédibilité en main. C'est-à-dire, l'État américain ne doit pas travailler pour l'intérêt du Congo, et le Congo ne doit pas travailler pour l'intérêt de l'Amérique. Mais quand même, chaque pays, avec sa souveraineté, doit voir quelle est sa part de responsabilité et quel est son intérêt. Moi, je pense que notre délégation, qui se trouverait déjà au stade, doit donner un point de vue responsable. Parce que toutes ces mesures-là, depuis que ça a été mis sur pied, non, la RDC a toujours été en position de faiblesse. Rien n'a marché et rien ne marche jusqu'au preuve du contraire. Donc les groupes sans armée sont devenus monnaie courante. Et puis, il faudrait maintenant que la RDC, avec ses experts, puisse voir qu'est-ce que nous devons faire pour que les minéraux congolais
ne puissent plus
profiter, voilà, d'abord aux Congolais. Parce qu'il y a la loi de l'offre et des demandes. C'est vrai que l'RDC n'est pas le seul pays.
Voilà, comme l'avait dit notre invité, donc vous l'appuyez.
On aura besoin toujours des minéraux de l'RDC.
Merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé de Guémena. Je crois que devoir de mémoire, nous devons nous rappeler ce qu'a été l'historique d'ailleurs de cette affaire. Depuis 20 ans, l'Est du Congo est le théâtre d'un violent conflit. Alors, il ressort que ce conflit a été en partie alimenté par le contrôle des ressources naturelles lucratives. Et Global Witness a été l'une des premières organisations à exploser le lien entre les commerces internationaux des minéraux et les groupes armés du Congo et à faire pression pour que des solutions soient mises en place. Alors en 2010, une loi historique a été adoptée par le Congrès américain. Elle exige que les sociétés cotées en bourse aux États-Unis déterminent si leurs produits contiennent un ou plusieurs de ces quatre minéraux, à savoir l'étain, le tantal, la tungstène et l'or. Alors provenant de la RDC ou de l'un de ces 9 pays limitrophes. Alors la section 1502, comme l'avons dit, de la loi américaine Dodd-Frank, connue sous le nom de la dispositions sur les minerais des conflits et le premier texte de loi visant à briser les liens entre les commerces lucratifs de minerais de l'Est du Congo et les groupes armés auteurs d'exactions. Aujourd'hui, supprimer cette loi, est-ce que cela aura comme impact? Nous en parlons donc avec vous, il est temps peut-être de revenir à notre invité, mais tout en rappelant à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à cette émission en composant les 081 890 49 69 pour intervenir en direct.
MONUSCO ezali koluka baninga babale ya ONU baebabunga na bakongole banei bazalaki na bango elongo. Mampinga ma MONUSCO mazali koluka baninga baebabunga eleki mwa mikolo pe mpo kobabatela. Soki ozwi to ozali na sango, boyebisa yango na bilo ya ONU onte ya etuka ya Kasai Central. MONUSCO ezali na manda ya kobatela bayimboka. Pona yango kobanga te mampinga ma MONUSCO to pe pona yango. Bango pe bazali koluka baebabungi. Bosunga biso na bokasi bwa biso ya boluki bato babungi. Mambi mazali koleka okongo Kinshasa etali bango te. Bauti engumba New York wapi bazali na mobembo ya mosala pona Nations Unies. Nations Unies ezwi mokano ya koluka pe kozwa basali bayango baebabungi pe baninga babango ya Congo Kinshasa.
Voilà, une fois encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission avec vous, notre invité, Monsieur Maurice Miema, chef de division, certification au CEC, centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Alors, on venait là de suivre cette première série des auditeurs. Il y a certains qui partagent votre avis et il y a quand même un point de divergence lorsque vous avez dit la RDC n'est ni pour ni contre. Alors cela n'a pas rencontré l'assentiment des uns des autres.
Bon, Monsieur Junior, je crois que nous avons suivi les uns et les autres. Monsieur Adrien, nous avons suivi
Maître Likonza et
Etienne. Ainsi que Monsieur Etienne. Je voudrais d'abord revenir sur le fait qu'il faudrait que nous puissions tous ensemble avoir le même entendement de ce que nous sommes en train de nous dire. J'ai commencé par parler de la souveraineté des États. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'administration américaine a pris cette loi, il n'a pas consulté la RDC. Voyez-vous, nous étions simplement, nous avons informé. Subi la loi. Nous avons subi cette loi. Mais aujourd'hui, l'administration américaine fait une démarche pour suspendre cette loi. Évidemment,
associe la RDC.
Elle associe, non,
à l'échange.
Elle associe le monde entier par rapport à la question. Notre position à nous, j'ai parlé de la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire, au fait, c'est une interpellation pour nous. Est-ce que devons-nous tout simplement attendre que les autres décident à notre place, ou devons-nous prendre notre responsabilité? Je crois qu'il faut prendre notre responsabilité. C'est vrai que la loi de Dodd-Frank, je l'ai dit, elle a eu à booster un certain nombre de mécanismes. Elle a eu à réveiller l'attention notre attention sur un certain nombre de questions. J'ai parlé de la sécurisation, j'ai parlé de la lutte contre la fraude, tout ça. Et l'État congolais n'a pas croisé les bras. L'État congolais a pris à l'interne des textes pour arriver à réglementer le secteur. Mmh. C'est vrai que dans le commerce international, il y a un problème de crédibilisation du système qui va faire en sorte que les partenaires aussi puissent trouver leur compte parce que les uns et les autres veulent chercher tirer le profit de leur côté. Mmh. Voyez-vous? Et nous, en tant que vendeurs de nos minéraux, nous devons être en mesure parce que ces lois sont faites par l'extérieur.
Alors, vous, en tant qu'expert, oui. Aujourd'hui, depuis 2010, oui. 7 ans après, quels sont les effets qu'a produit cette loi de Dodd-Frank?
Oui, depuis qu'on l'a mis en place.
Vous parlez de l'offre et la demande.
Oui.
Nous vendons, est-ce que nous avons gagné par rapport à la loi, par rapport à la sécurité, par rapport à la commercialisation d'ailleurs de notre
minerai? Par rapport à la commercialisation, je voudrais déjà vous dire qu'avant, la mise en œuvre de la Dodd-Frank. Moi, je suis du CSC, je peux vous donner les statistiques.
Les statistiques, voilà, nous en avons besoin.
Était à 19 000 tonnes l'an. Mais après, nous sommes maintenant autour de 8 000 tonnes l'an. Ça veut dire qu'on a serré. C'est vrai, on a serré. Sur le plan du profit, c'est vrai que nous n'avons pas profité suffisamment. C'est vrai que les uns et les autres voudraient tirer les draps de leur côté. Je ne voudrais pas simplement parler de ça, mais en termes de privation de moyens des groupes armés, ça nous a aidé parce que on a essayé de contraindre les groupes armés à ne pas avoir le moyen de leur politique. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas se leurrer, l'activité des groupes armés n'est pas totalement éradiquée, comme vous le savez. Voyez-vous, je crois que M. Etienne y a fait allusion. Mais maintenant, nous, en tant que gouvernement responsable, ce n'est pas simplement la question, simplement aussi de la RDC, parce que je vous dis qu'il y a eu des conférences au niveau des chefs d'État de la région pour réfléchir sur cette question et pour prendre, parce que au-delà de ça, je vous ai parlé de d'autres mécanismes.
Qui le processus fait, de Kimberley,
diligence raisonnable, sur la diligence raisonnable, c'est au fait l'épine dorsale des standards de l'Union européenne maintenant et même de la Chine, voyez-vous. Et c'est pratiquement une nouvelle forme de la Dodd-Frank qu'on est en train de vouloir nous imposer. Et nous, nous savons que nous sommes bien. Il y a des mécanismes de traçabilité. Nous avons eu tri. Ces gens-là sont venus poser leurs propres mécanismes ici. Ils ont envoyé, voyez-vous, des initiatives de traçabilité qui travaillent.
Donc si mais je comprends nous bien, nous la suppression que, de cette loi n'aura aucun
disons,
effet.
Nous disons ceci que la traçabilité ne doit pas disparaître et elle ne pourra en aucun cas disparaître. Dans la mesure où il y aura toujours d'autres mécanismes qui vont s'imposer sur nous. Ça veut dire que ce sera une nouvelle forme de la loi Dodd-Frank qui pourra se poursuivre. Et nous, nous avons la responsabilité aussi de mettre en place ces mécanismes.
Mais déjà, les résultats avec le processus de Kimberley, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et l'arrivée d'ailleurs de madame à la tête d'une ONG américaine, je crois que là aussi, il faut le mentionner.
On passe du coq à l'âne, parce que maintenant, là, même celui qui a parlé de là, je crois qu'ils peuvent encore bien parler de la Dodd-Frank, mais dans le processus. Kimberley, je crois qu'il ne maîtrise pas grand-chose.
Voilà, c'est pourquoi il faut quand même rappeler aux
uns et aux
autres.
Dire que ça a été un échec, je crois qu'ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils disent.
Donc ça a été
Le processus de Kimberley, c'était quoi au fait? Le processus de Kimberley, ça visait la lutte contre les diamants de sang. Et aujourd'hui, il a été prouvé noir sur blanc qu'il n'y a plus de diamants de sang. Il y a plutôt le diamant de la fraude.
Plusieurs ONG d'ailleurs ont salué les avancées.
Oui. Ouais. Les diamants de sang, ça n'existe plus. Et tous ces mécanismes qui viennent par la suite ont misé leur système sur le processus de Kimberley. La certification, en fait, il faut reconnaître le mérite du processus de Kimberley, dire que ça n'a pas été quelque chose qui a réussi. Ça, c'est vraiment.
Voilà. Alors, si vous le permettez, on va prendre Fortuna, qui est un analyste dans le secteur des mines, qui nous a rejoint d'ailleurs dans ce débat. Fortuna, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, Fortuna, par rapport à cette loi Dodd-Frank, la suppression, d'aucuns partagent cet avis, d'autres non. Quelle est votre position, vous, personnellement?
Oui, mais merci beaucoup pour la question. Nous devons avouer qu'il y a eu des travaux, il y a eu d'avancées, il y a eu d'énergie fournie pour qu'aujourd'hui, le secteur minier dans la République démocratique du Congo vraiment mérite l'analyse et mérite le résultat sur l'avancée d'assainissement. Et donc, moi je crois la loi Dodd-Frank a contribué et nous devons reconnaître les efforts parce que aujourd'hui nous sommes dans le processus de traçabilité avec l'étiquetage de minerais qui trace les sources et nous pensons bien que ce n'est pas un effort qui est venu d'ici Kotak. Nous pensons bien que la loi Dodd-Frank nous a beaucoup aidés.
Alors, que direz-vous?
Oui, que direz-vous?
Oui. Vous êtes à Walikale?
Je suis à Walikale, c'est un territoire minier où je peux vous partager l'expérience avec les efforts de cette loi. Donc, ouais.
Allez-y, Fortuna. Dites-nous quelque chose parce que je comprends que vous soutenez cette loi. Vous soutenez cette loi.
Oui. Exactement, je le dis clairement, tout haut, que la loi a
produit beaucoup d'effets
de la RDC,
la loi a beaucoup aidé le secteur minier de la RDC, je le répète, parce que au moins aujourd'hui, il y a des avancées significatives.
Alors, lesquelles avancées vous avez constatées? Oui. Lesquelles avancées vous avez constatées à Walikale, par exemple?
Oui, par exemple, à Walikale, maintenant, là, il y a l'étiquetage des minerais.
L'étiquetage.
Avec le guide de l'OCDE qui retrace, en fait, le minerai. En fait, Walikale, dans les temps, on parlait de minerai d'Issa. Vous vous rappelez avec le gisement de Bissier, où on a dit il y a du minerai d'Issa. Mais grâce à cette loi-là, grâce aux efforts des autorités congolaises qui ont mis en pratique la disposition de cette loi, au moins aujourd'hui, Walikale assiste maintenant à la traçabilité de minerai. Donc il y a l'étiquetage, il y a et le minerai maintenant sort dans la voie légale.
Merci beaucoup Fortuna. Ouais. Merci beaucoup Fortuna d'avoir appelé depuis Walikale. On va prendre l'ingénieur Valérie qui est à Kindu. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour GR, bonjour l'invité. Je soutiens la position de Maître Adrien et de Monsieur Fortuna qui vient de parler tout à l'heure.
Oui.
Personnellement, je dois d'abord donner ceci comme prémisse. Donald Trump, c'est le président des États-Unis. Il travaille pour les États-Unis et non pour la RDC. Il a pris une mesure qui est avantageuse pour les États-Unis. Et sans oublier que lui-même, c'est un commerçant. C'est un homme d'affaires, donc il a pris aussi des mesures pour se faire un peu d'argent. Mais ce qui est déplorable, c'est la déclaration de notre invité qui doit dire que nous ne sommes ni pour ni contre. Fortuna a bien expliqué que la loi
nous
a permis la traçabilité. Moi, en tant que Congolais, je ne peux pas compter sur la loi de la CIRGL ou bien de la CDAO. Est-ce que la CIRGL, c'est une structure crédible vis-à-vis des Africains? Je dirais non, parce que le pays qui nous agresse, ce sont les pays de la CIRGL. Dans l'accord d'Addis Abeba, n'est-ce pas qu'on a interdit aux États membres de s'ingérer dans les affaires des autres États membres? Et jusqu'à aujourd'hui, on vit tous ces faits-là. Ils nous agressent. Alors, si de tels engagements n'ont pas donné d'effet, comment nous pouvons compter sur nos minerais qui, du reste, sont des richesses épuisables? C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où nos richesses seront épuisées. Moi, je préfère que cette loi-là continue toujours à être d'application pour que la partie des minerais que nous ne prenons pas, que les autres prennent, puissent demeurer toujours nos ressources que nous utiliserons un jour et pour nous et pour nos enfants. Mais on ne peut pas accepter ça. Alors, dire que nous ne sommes ni pour ni contre, non, nous devons, même la délégation qui va rentrer à suivre l'invité, moi je comprends déjà qu'elle ne va rien nous amener comme solution parce que l'invité c'est un expert, il connaît au moins la position de ceux qui sont partis là-bas. Mais à l'entendre parler, on comprend qu'il n'y aura rien de spécial. Dans ces cas-là, moi, vous savez, la puissance d'une loi réside aussi dans la puissance du législateur, la puissance des États-Unis. Quand ils prennent une loi, c'est plus efficace que la puissance des CIRGL, dont les pays membres sont même agresseurs. En tout cas, je suis vraiment désolé.
Merci.
Pour moi,
merci beaucoup.
Alors,
merci beaucoup, Valérie. Alors, Monsieur Maurice, réaction?
Oui, merci beaucoup, Valérie, et tous les amis qui sont intervenus. Je crois que on ne se comprend pas. Lorsque je parlais des États-Unis qui sont en train de prendre leur position. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons dire, nous voulons que cette loi-là reste. Et les États-Unis disent, nous suspendons. Vous allez faire quoi en ce moment-là? Il faut compter sur ses propres efforts. Je n'ai pas rejeté le fait que cette loi a eu
produit des bons effets.
Je l'ai dit. Mais je suis revenu sur le fait que nous n'avons pas d'ordre à donner aux États-Unis. Nous pouvons dire que nous avons
d'autres mécanismes,
mais nous devons faire un effort pour que nous puissions nous approprier les mécanismes qui ont été mis en place de manière à ce que nous puissions nous rendre compte qu'il y a des choses qui évoluent. Et j'ai dit le fait que aujourd'hui, il y a d'autres États. J'ai parlé de l'Union européenne, j'ai parlé de la Chine et qui mettent encore aussi des standards qui, au fait, sont en train de copier pratiquement ce qui était déjà dans la loi de Dodd-Frank. Ça veut dire que même si cette loi aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était au départ, d'autres mécanismes vont toujours nous contraindre. Donc ça ne sera pas un champ libre comme on prétend que si cette loi n'est pas là, donc c'est un champ libre, tout le monde peut venir faire ce qu'il veut, tout ça. Non, parce que l'Union européenne n'est pas moindre, elle va imposer aussi ses normes qui sont déjà en route et nous devons travailler. Et notre problème à nous, c'est quoi? Vous parlez de l'étiquetage, quelqu'un a parlé de l'étiquetage ici. Je pense que ce n'est pas simplement des gens qui doivent venir prendre l'étiquetage ici. Il faudrait qu'on puisse transférer cette technologie-là pour que les Congolais travaillent. Il ne faudrait pas que pour venir certifier les minerais ici, ce soit eux qui viennent certifier sur place. Ils font dépenser beaucoup d'argent et parfois même l'argent qui devait entrer dans les caisses de la RDC, ce sont ces gens-là qui prennent parce qu'ils doivent d'abord venir travailler ici pour venir certifier que maintenant ces BC ils peuvent exporter. Et il y a beaucoup de mécanismes, ils viennent faire de l'argent sur le dos de la RDC. Et nous, nous disons ceci, que nous devons avoir un cadre de collaboration. Parce que même quand ils ont dit que s'ils suspendent la 1502, nous allons nous retrouver. C'est pour ça que l'équipe est allée là-bas pour dire, nous devons discuter, pour dire, si vous nous enlevez ça, il y avait tel avantage. Comment est-ce que vous pensez compenser ça? Si vous voulez maintenir ceci, mais nous voulons que tel aspect, par exemple, vous puissiez l'alléger, voyez-vous. Parce que dans tous les cas, nous devons miser sur le dé. S'ils maintiennent, qu'est-ce que nous pouvons faire? S'ils suspendent, parce que à la fin, au bout du compte, c'est eux qui vont décider. Donc nous, nous devons nous préparer à toute éventualité, c'est ça que
j'ai dit. Une question de curiosité, Monsieur Maurice, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes de CEC, Centre d'expertise et d'évaluation de substances donc minérales précieuses et semi-précieuses, mais est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur les taux aujourd'hui des certifications par rapport aux années passées, 5 ans avant par exemple? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a effectivement l'engouement en ce qui concerne cette démarche de certifier à tout prix les produits qui quittent les pays ou qui pour aller être vendus ailleurs, quoi?
Non, les taux de certificat, bon, évidemment, vous savez, en ce qui concerne les minéraux désignés, ça veut
pour
dire...
Pour les diamants, il y a déjà des avancées, vous avez dit, dans le processus de Kimberley, mais pour le cas d'espèce, en ce qui concerne...
Pour le cas d'espèce, je voudrais vous dire d'abord ceci, que nous réglementons ça par rapport au certificat CIRGEL, même si on est en train de le rejeter, parce que même l'étiquetage, là, à la fin, le document qui certifie tout ça, c'est le certificat CIRGEL. Et le certificat CIRGEL, ça ne veut pas dire que c'est seulement CIRGEL ici, parce que le certificat CIRGEL met en place le mécanisme de l'OCDE. Et l'OCDE est admis, même par la Dodd-Frank, même par l'Union européenne, même, et c'est ça la diligence.
Est-ce que ce taux a été varié?
Oui,
variation à la hausse ou à la baisse?
Le taux est toujours constant. Augmentant par rapport à certaines régions, à certaines provinces, parce qu'en fait, il y a eu des problèmes, notamment par exemple la certification, la qualification et la validation des sites miniers.
Parce que le problème, c'est au niveau de l'Est.
Parce qu'au départ, vous avez une éventualité, donc un éventail de sites miniers. Avant que ces sites produisent, il y a toute une procédure. Il faut qu'on mette une équipe conjointe qui doit aller valider pour dire que ce site ici est exempt de conflit et il peut produire. Et ce mécanisme-là prend beaucoup de temps. Et nous qui sommes dans le système, nous savons que c'était pratiquement un embargo de fait parce qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué. Et ça, c'est le côté négatif de cette loi-là. Parce qu'avant d'exploiter, vous devez d'abord vous réunir. Ça veut dire qu'il y avait des représentants, des partenaires bilatéraux, les représentants du gouvernement, des ONG, tout ça, vous devez être ensemble pour aller dire ce site ici peut commencer. Et pour arriver à plus de 3000 sites qui sont dans la RDC, et nous n'avons pas évolué sur ce point de vue-là. Et ça, c'était un blocage, et on le sait. Il fallait disposer de moyens pour faire toutes ces visites-là. Et jusqu'aujourd'hui, il faut dire qu'il n'y a que quelques sites qui ont été validés. On a dû changer le système pour essayer d'aller un peu plus rapidement. Vous avez l'or, par exemple, à Louisa. À Louisa, il n'y a pas eu de guerre. Comme vous le savez mieux que moi, l'or est produit à Louisa. Mais est-ce que fallait-il
Même plus loin, Djokopunda,
littoral. Est-ce qu'il y a la guerre là-bas? Il n'y a pas de guerre. Fallait-il aller valider là-bas? C'était aussi des questions qui se posaient. Mais et ils ont dit toute la RDC doit être mise sous certification de manière à ce qu'on puisse aller valider les sites avant de produire. Mais entre-temps, le Rwanda ici à côté produit du minerai de zinc sans que le même contrôle qui est exigé à la RDC soit exigé au Rwanda. Il y a bien des choses. Il y a beaucoup de pays de la région.
Il y a encore un débat à engager entre nous et les partenaires.
Il y a beaucoup de pays de la région sur lesquels ces pays-là ferment les yeux.
Ils ne sont pas trop regardants,
mais la RDC, ils voudraient vraiment. Il y a des aspects, des agendas cachés derrière là.
On va en parler. Je crois qu'il y a lieu quand même de les dire pour éclairer la lanterne des uns et des autres, parce que c'est vrai, il y a la politique de deux poids deux mesures, même dans ces processus de certification, de l'or, de la tétane. Donc il y a beaucoup de choses. Je crois que nous allons y revenir. Le temps peut-être de voir Cyril qui est à Bandundu, Maître Gaston qui est à Kinshasa et Sylvain à Kolwezi. Cyril, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour la Radio Capi, bonjour à notre invité, merci beaucoup.
Alors, quelle est votre contribution, Cyril?
Merci. D'abord, je commence à féliciter l'invité par rapport à ses argumentaires, et je partage la même réflexion avec lui. Il est en train de nous montrer le tenant et les aboutissants de la thématique inscrite à l'ordre du jour.
Oui, Cyril, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu là, parce que là, vous sortez entrecoupé, il y a des micro-coupures, ça ne nous permet pas de vous suivre correctement.
Merci beaucoup, je me déplace. Maintenant, on va.
Oui, allez-y, on va essayer de suivre.
D'accord. Je disais tantôt que je commence à écouter l'invité par rapport à ses argumentaires. Ça, c'est vrai. Moi, je partage le même avis avec lui. D'autant plus que la loi là, exactement, vous savez, là où je ne suis pas d'accord, je crois que je l'ai dit au début que je suis d'accord avec lui, mais là où je ne serai pas d'accord avec lui parce que la CIRG n'est pas africain. CIRG n'est pas africain. C'est-à-dire, la CIRG n'a aucune décision à prendre en ce qui nous concerne. Et aussi, elle ne peut pas nous imposer ce que nous devons nous mettre en application dans notre pays, la République démocratique du Congo. Moi, je dis, Dieu a déjà béni la RDC depuis très longtemps. Et vous savez, notre pays a une potentialité de richesses très énorme et que enviée par les Occidentaux. C'est vrai, monsieur le journaliste. Là où l'invité est en train de tomber d'accord avec moi, il est en train de mettre pratiquement, en fait, de nous faire voir soit sur la notion du maintien et sur la notion de suspension de ce qui se passe exactement. C'est vrai, les États-Unis ont pratiquement un grand rôle à jouer. Hein. C'est une puissance mondiale, c'est vrai. Ils peuvent s'imposer à nous pour dire non à partir d'aujourd'hui, niet, ou à partir de demain, niet, c'est vrai. Mais écoutez, la République du Congo reste
un pays souverain. Merci beaucoup. Merci Cyril. Maître Gaston, c'est vrai, est-ce que vous partagez l'avis au regard d'ailleurs de cette activité d'exploitation minière à travers la RDC et aussi tout autour de nous, les pays voisins? On se rend compte qu'il y a, cette politique de deux poids deux mesures en ce qui concerne par exemple des mesures à prendre pour peut-être dans le cadre de traçabilité ou de la traçabilité des minerais de sang, on se rend compte que les partenaires sont beaucoup plus regardants à l'endroit de la RDC qu'à l'endroit de ses voisins.
Maître Gaston. Ce n'est que normal. À mon avis, ce n'est que normal parce que, par exemple, les Rwandais servent au métier d'assemblage de transiter leurs minerais extraits illicitement sur notre territoire, vous ne l'ignorez pas. Et puis, j'allais aussi ajouter que les problèmes demeurent au niveau de la mentalité des multinationales, parce que ce sont les fraudeurs, ils sont les grands fraudeurs. À part les simples opérateurs, les petits opérateurs économiques, qui, à mon avis, tant qu'il n'y aura pas l'esprit, tant que nos agents seront toujours corrompus, il y aura toujours des fraudes, mais les grands lots sortent avec ce qui alimente la guerre à l'Est, vous l'ignorez pas. Alors, aujourd'hui, moi je pense que ça importe peu cette position des États-Unis parce que Donald n'ignore pas que lui, il est un multinational et les gens de son genre.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Gaston.
Vous m'écoutez là?
Oui, parce qu'il y a encore d'autres auditeurs qui vont intervenir. Si vous pouvez conclure rapidement, Maître Gaston.
J'allais dire que Donald n'a qu'à éduquer, ses concitoyens.
Ses administrés,
Merci. Les guerres,
merci beaucoup, Maître Gaston. Alors, Sylvain, vous êtes à Kolwezi, bonjour. Bienvenue, Sylvain.
Bonjour, bienvenue. Bonjour à l'invité. J'aimerais juste vous dire ceci, mon confrère, mon père. En tout cas, on ne peut pas condamner Donald Trump, quel que soit. Le monsieur là, peut-être, peut avoir des idées derrière cette loi qu'il vient de signer concernant notre pays. Vous savez que ce n'est pas au hasard comme ça ce qu'il peut lui pousser à faire cela. Il y a quelque chose qui se cache derrière cette loi.
Voilà, merci beaucoup. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, monsieur JR. Bonjour à tous les meilleurs auditeurs. Bonjour à notre invité. Par rapport à la thématique, monsieur JR, moi, je dirais que vous savez, vous êtes pas venu avec moi. Aucune initiative de Donald Trump, depuis qu'il est au pouvoir, n'est dans son propre pays. Moi, j'estime que ça, c'est pour encore subir la population congolaise. Parce que vous êtes pas venu avec moi, monsieur JR. Quand même on dit qu'il y a une politique à deux poids deux mesures. Non, il n'y a pas une politique à deux poids deux mesures. La situation sécuritaire du Rwanda est différente de la situation sécuritaire au niveau du Congo, de la République démocratique du Congo. Vous êtes en oublié avec moi que M. Gilles, il y a des généraux qui se sont enrichis à grâce à ces minéraux de sang, et eux qui ont des comptes par-ci, par-là, à Panama, tout ça. Mais si aujourd'hui, le Congo ne sait pas prendre la position, là, je plains les autorités.
Voilà, merci beaucoup. On revient alors à notre invité pour conclure. Voilà, M. Maurice Miema, vous êtes chef de division, certification au CSC. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je crois que la position, elle est claire. Soit on maintient la loi. Bon, déjà, ça produit des effets positifs. Soit on le supprime. Mais bon, ça n'aura aucun effet négatif dès lors qu'il y a d'autres processus ou mécanismes pour la traçabilité des minéraux en RDC.
Oui, JR, en guise de conclusion, ce que je dois dire, c'est ceci. Je reviens sur le fait que nous devrons toujours voir de quel côté se trouve l'intérêt de la RDC. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a une loi qui nous a été imposée, qui a eu ses mérites, nous l'avons intégré dans nos lois internes et nous continuons à évoluer. Et il n'y a pas que l'unique loi, parce qu'elle a fait naître aussi d'autres mécanismes qui continuent à peser sur nous, et nous avons accepté parce que nous ne pouvons pas faire autrement, parce que nous devons commercialiser nos minéraux et nous faisons un effort pour les crédibiliser. Alors, par rapport à cette démarche, nous avons mis en place des systèmes de traçabilité qui répondent à différents mécanismes, y compris la loi de Dodd-Frank, y compris le devoir de diligence de l'OCDE, y compris les standards de la CIRGL, et même toutes ces normes que l'Union européenne et la Chine veulent mettre en place. Pour nous, ce qui nous importe, c'est que la RDC fasse de bénéfices de ces minéraux. C'est que la RDC s'approprie ces initiatives et vendent le plus possible de ces minéraux. Et c'est que la RDC aussi retrouve la paix et que les gens ne puissent pas utiliser ces minéraux pour se soulever contre la RDC, priver la RDC des moyens de sa politique. Et nous voulons que, en ce moment-là, ceux qui veulent venir vers nous puissent nous aider au lieu de ne voir que leurs propres intérêts. C'est pour ça que tous les mécanismes auxquels nous prenons part, ce sont des mécanismes qui devront nous aider. En même temps que nous faisons un effort par rapport à ce qu'ils nous demandent, nous faisons aussi un effort par rapport à ce que ils doivent aussi faire un effort pour nous aider. Nous aider à éradiquer les groupes armés, nous aider à faire en sorte que les conflits se terminent. Parce que tous ces mécanismes, dites-vous bien, c'est parce qu'il y a eu cette situation de conflit. Mais si les conflits aujourd'hui, il n'y en a plus, je crois que ce que nous mettons en place va marcher un peu plus rapidement. Donc, faisons un effort dans tout.
Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, à croire tous ces débats, il y a nécessité quand même de revoir aussi notre code minier?
Oui,
le code minier lui-même. Ça relance d'ailleurs le débat sur ça.
Ça relance le débat. Le code minier lui-même est
en chantier.
En chantier. Et je suis hier d'ailleurs, je suivais le chef de l'État et qui a réuni les piliers de notre gouvernement pour que on puisse revenir sur ça. Je crois que bientôt là, au niveau de l'Assemblée nationale, on va revenir sur la question pour accélérer la révision du code minier, parce que toutes ces questions doivent être intégrées. Parce que le processus, le secteur minier évolue à une vitesse telle que nous devons à tout moment nous ranger de manière à ce que nous ne soyons pas surpris par d'autres mesures qui seront bientôt appliquées à nous.
Maurice Miema, vous êtes chef de division au CEC, Centre d'expertise et d'évaluation de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait les déplacements de ces studios en ces jours pour la première fois que nous vous recevons dans ces studios. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission, Nico Kalambay, Alain Ngoy, Martin Sebujangi qui l'a supervisé et Jir Lungembo Luabung Anjiaï, le plaisir de coordonner et de présenter ces programmes. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon suite des programmes sur la radio de la paix.
Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.